Vous écoutez RTL.
La Renaissance est une période clé de notre histoire, un moment où l'humain prend la place de toute autre vision de la société.
RTL.
Tout d'un coup, il y a une effervescence intellectuelle, artistique, tant en Italie qu'en France.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Moi, j'aime secret d'histoire quand les secrets d'histoire peuvent me dire mais comment je me situe.
Sur RTL.
Et avec Stéphane Bern, on vous écoutait religieusement, Stéphane. Ça fait du bien de s'entendre.
Quand était-ce, à quelle époque,
dans quelle émission, dans quelle étagère.
Bienvenue Stéphane chez
merci,
nous, on adore vous accueillir.
Merci de m'accueillir pour cette curiosité.
Et oui, c'est toujours du bonheur de vous avoir. On va poser les bases d'abord. Ça situe quand la Renaissance?
Les historiens ne sont pas tout à fait d'accord. Moi, je pense, maintenant, vous me demandez mon avis, oui. Je vous donne une idée. Je trouve que la Renaissance commence à partir du moment où Charles VIII, roi de France, à la fin du XVe siècle, va partir faire ce qu'on a appelé les guerres d'Italie. C'est-à-dire, il se prétend l'héritier du trône de Naples, il veut donc reconquérir au nom de la maison d'Anjou dont il est l'héritier, il veut reconquérir le trône de Naples et il fait ses guerres d'Italie, il rencontre un certain nombre d'obstacles évidemment, vous savez que l'Italie n'est pas unifiée comme elle l'est aujourd'hui, dans chaque ville il y a des princes qui règnent, qui ne voient pas d'un très bon œil le roi de France arriver, mais il va à Naples, il va à Florence, il va à Pise, il va à Sienne. Et là, il y a le Quattrocento italien, il y a la Renaissance italienne, il y a tous ces artistes. Et quand il reviendra d'ailleurs, et il mourra en 1498 au château d'Amboise, eh bien Amboise aura un peu changé. C'est-à-dire qu'on voit que les châteaux s'ouvrent, se décorent différemment. Donc moi, je daterais la Renaissance du retour en France du roi Charles VIII après les guerres d'Italie. Pourquoi ça vient d'Italie? Écoutez, si on remonte un peu plus loin à la Renaissance, c'est aussi parce que tous les savants qui étaient autrefois en Italie, autrefois dans l'Empire ottoman, sont chassés parce que les Ottomans arrivent à Constantinople, chassent les savants qui vont en Italie et d'Italie, ils viennent en France. Voilà, donc, et puis, c'est l'époque aussi où on remet l'humain au cœur de la société, où on relit Tite-Live, on relit Cicéron, on relit les textes anciens.
Et l'un des symboles de cette Renaissance, c'est le fameux château de Chambord. Il continue de fasciner les visiteurs 5 siècles après. Il a été construit pour ça, pour impressionner, pour en jeter.
Oui, c'est très impressionnant. Le sultan disait que c'était le palais des mille et une nuits. L'ambassadeur de la République sérénissime de Venise disait que ce château éblouissait le monde entier. Vous savez qu'on dit que la gouverneure des Pays-Bas, qui n'était autre que Marguerite d'Autriche, a voulu faire voler les plans du château de Chambord pour se le reconstituer près de Bruxelles. Tellement il impressionnait.
Oui, c'est François Ier qui veut impressionner le monde.
Au fond, le grand architecte, le grand ordonnateur de Chambord, c'est François Ier, qui voulait impressionner le monde. Il voulait laisser une trace de son passage. Et puis surtout, vous savez qu'il avait l'idée il avait Blois, il avait Amboise, il avait un certain nombre de châteaux qu'il a agrémentés, c'est vrai. Mais il voulait construire une ville entière à Romorantin, où sa mère Louise de Savoie avait son propre château. Et puis il voulait à Chambord impressionner les foules, faire le plus beau château à partir d'un relais de chasse. C'était avant tout une propriété de chasse.
Au départ, il confie la mission de créer les plans à Léonard de Vinci, c'est ça?
C'est Léonard de Vinci. On a retrouvé dans les carnets de Léonard, on a retrouvé un certain nombre de croquis qui montrent qu'il est l'architecte, sauf qu'il est mort en mai 1519. Et donc c'est Boccador qui va ensuite construire, faire les plans d'architecture. Mais moi je vous dis, le véritable architecte de Chambord, c'est François Ier lui-même.
Et vous racontez tout ça dans Secret d'Histoire, la Renaissance, publiée chez Albin Michel. On va consacrer du temps maintenant à découvrir Léonard de Vinci. Alors, pas forcément le peintre, mais le génial inventeur. Restez avec nous sur RTL.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
RTL.
La musique sur RTL, c'est ça. Des tubes. RTL.
Et des standards.
Et tous les week-ends, du live.
On aime la musique sur RTL. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
La curiosité avec Stéphane Bern qui nous fait découvrir les merveilles de la Renaissance. Alors, nombre de ces merveilles, de ces trésors, sont dus au talent de Léonard de Vinci. Il savait vraiment tout faire.
Ils savaient tout faire. En tout cas, on a trouvé des carnets. Je ne sais pas si vous êtes allé vous promener au Clos Lucé, qui est à côté du château d'Amboise.
Mais je l'ai visité, c'est passionnant.
C'est assez magique, parce qu'on voit les maquettes, on voit les dessins, on voit tout ce qu'a... Il a tout imaginé.
C'était sa demeure.
C'était sa demeure. Il a imaginé que l'homme volerait un jour. Il a imaginé des engins. Il était mathématicien. Il était ingénieur de marine, ingénieur civil. Il savait tout faire.
Mais il était plus inventeur que peintre, finalement. Parce que souvent, on dit inventeur. Le peintre Léonard de Vinci. Mais...
Il faut dire, excusez-moi, Sidonie, il laissait quelques chefs-d'œuvre.
Il n'a pas peint n'importe quoi.
La Joconde, quand même, l'Adoration des Mages et quelques autres chefs-d'œuvre.
La Seine.
C'est quand même. Des...
Mais on met plus en valeur le côté peintre que le côté. Inventeur.
D'abord parce que, vous savez, il avait un gros défaut. Vous le connaissez, ce défaut.
Il était
quoi ? Il procrastinait.
Lent. Ah non,
ça veut dire qu'il remettait au lendemain.
Il remettait au lendemain ce qu'on pouvait faire le jour même.
Et alors, il était un peu feignasse, quoi.
Ben, je ne dirais pas ça, Sidonie, mais d'une certaine manière, il rendait fou tous ses commanditaires. C'est-à-dire que pendant des mois, il ne touchait pas à une œuvre, puis il la reprenait et il y consacrait jour et nuit sans dormir ni manger.
Allez, vous racontez dans votre livre La Renaissance, publié chez Albin Michel, qu'il pouvait passer des jours et des jours à simplement regarder son œuvre sous toutes les coutures, si j'ose dire, sous différents angles.
Mais il photographiait tout, il avait un œil extraordinaire, il avait ce talent de savoir faire des croquis, d'expliquer... Enfin, on a retrouvé tous les croquis, par exemple, de ces constructions militaires. Mais c'est comme un génie militaire. Il a inventé avant Vauban l'art des fortifications. Il a fait des sous-marins, des engins.
Des chars aussi.
Oui, des chars d'assaut. Enfin, c'est incroyable tout ce qu'il a imaginé.
Et donc, il a rêvé, Léonard de Vinci, de faire le premier avion, c'est ça ?
Oui, exactement.
La première machine volante.
La première machine volante, c'est lui. Elle est dessinée, il a fait des calculs savants parce qu'il était très bon mathématicien, donc il avait fait tous les calculs pour savoir comment ça pourrait voler avec l'air chaud. C'est incroyable.
Stéphane Bern, avec un tel talent, il a très vite, Léonard de Vinci, côtoyé les puissants, les rois, les reines.
Oui, bien sûr, d'abord il était d'une très bonne famille, donc il a eu très vite des commanditaires, des gens qui lui commandaient des œuvres qui appartenaient à toutes les grandes famille.
Comment il se comportait à la cour ?
Il était terrible. Vous savez, parce qu'on a toujours l'image de Léonard de Vinci, le vieux monsieur avec sa barbe qui était extrêmement... vous savez, les portraits de lui, du vieux monsieur, on dirait un vieux
le
philosophe
sage,
grec.
Un peu
sage.
Austère.
Mais c'était Zaza Napoli à la cour. Pardon de le dire.
Il était super bien fringué.
Il était super bien fringué. Il avait les habits à la mode. Il était bijouté beaucoup plus que les dames de la cour.
Bling bling, le Léonard de Vinci. Alors
plus bling bling que ça, il était un peu travelot, quoi, un peu. Non, il était habillé en homme, mais il y avait plus de bijoux que les femmes, il était parfumé. On disait qu'on le reconnaissait à l'odeur, mais pas parce qu'il sentait mauvais, mais parce qu'il se parfumait outrageusement. Il était un peu fardé.
Était homosexuel, Léonard de Vinci.
C'est avéré, Thomas. Je ne suis pas là pour instruire son procès. Mais il a quand même eu des condamnations. Il a eu des condamnations. Ouais. Vous savez que c'était un crime. À l'époque, il valait mieux avoir ou courir vite ou, en l'occurrence, avoir des bons appuis.
Oui,
il avait de bons appuis. Laurent de Médicis est venu le sortir de prison où il avait été condamné. Je crois que c'était à plusieurs mois d'emprisonnement, à deux mois d'emprisonnement pour sodomie, qui était un crime.
Et l'un de ses amants travaillait avec lui. Il était surnommé le Petit Diable, c'est ça ?
Le Petit Diable, absolument. Ouais. Mais vous savez qu'il s'entourait de mignons. Donc, il sortait en ville entouré de jeunes admirateurs qui le louaient, le flattaient. Enfin, c'est un autre personnage que celui qu'on voit arriver en 1516 en France, au château d'Amboise, et puis donc au Clos Lucé, où le roi François Ier l'installe avec monts et merveilles. C'est-à-dire qu'il lui a fait une... Il l'appelait mon père. C'est drôle, ce lien de paternel qui naît entre François Ier et Léonard de Vinci. Et on dit même qu'il y avait un couloir secret que j'ai emprunté du côté du Clos Lucé. J'ai eu du mal à aller, parce qu'il est bouché maintenant pour arriver jusqu'à l'esplanade d'Amboise.
Tiens, la Renaissance, ses beautés, mais aussi ses turpitudes. Avec par exemple,
j'adore.
Lucrèce Borgia.
14h-15h.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Vous écoutez RTL. RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
La Renaissance, époque fabuleuse, un monde s'éteint, un autre apparaît, période d'invention, de création, de beauté que l'on découvre avec Stéphane Bern. D'ailleurs, les beautés de Chambord font réagir nos auditeurs au 3210. Philippe qui nous appelle de Saint-Médard-en-Jalles, c'est près de Bordeaux ça, Saint-Médard-en-Jalles, et qui nous demande combien d'ouvriers ont travaillé sur ce chantier.
Plus de 1800 ouvriers ont travaillé sur ce chantier. Il faut dire qu'on a transporté quelque 200 000 pierres, cette pierre de tuffeau des bords de Loire. Et vous savez comment étaient payés les ouvriers ? Non. C'était un système assez ingénieux d'ailleurs. Ils gravaient leur nom sur chaque pierre qu'ils taillaient, les tailleurs de pierre.
Oui.
Et à la suite de quoi, eh bien, le contremaître passait, comptait le nombre de pierres que vous aviez taillées une fois qu'elles étaient installées. Et donc, on vous payait à la tâche.
C'est
d'où l'expression « un tâcheron ».
Ça vient
tâcheron,
de là.
Ça vient de là. Vous êtes payé à la tâche. Et cela dit, quand on voit ce château incroyable, immense, avec cet escalier à vis, cette couronne, cette lanterne au centre, c'est encore un château monumental. Le roi François Ier n'y est resté sur 32 ans de règne. Il n'y a séjourné que 72 jours.
À cause de la longueur des travaux ou...
Non. Voilà, il allait chasser, disons. Oh, il n'a pas le temps d'y dormir.
Et on va se passionner maintenant, Stéphane Bern, pour un personnage sulfureux de la Renaissance, c'est Lucrèce Borgia. Où et quand a-t-elle vécu?
Elle a vécu au XVe siècle et début du XVIe, à Florence et à Rome surtout, parce que son père, je sais que ça fait bizarre de dire son père était pape, mais oui, Rodrigo Borgia, à l'époque, oui. On pouvait être pape et puis on n'était pas obligé d'être saint. Hein. Elle est née exactement le 18 avril 1480. Son père n'était que le cardinal Rodrigo Borgia. Il devient pape Alexandre VI. Et donc,
dans une famille qui symbolise la violence, la débauche, pour quelles raisons les Borgia avaient cette réputation ?
Alors, en fait, d'abord parce que pour Alexandre VI, être pape, c'était la possibilité de tout avoir. Le népotisme est aussi né de cette manière. Mais surtout, il avait deux fils, Juan et César surtout. César Borgia détestait les hommes qui s'approchaient de sa sœur. Donc, il a fait assassiner à peu près tous les maris, sauf le dernier. Tous les maris et les amants de sa sœur. D'où, si vous voulez, elle n'est qu'une victime, en quelque sorte, entre les mains de son père Alexandre VI et de son frère César Borgia, qui, je le dis en passant, est le modèle qui a servi à Machiavel pour écrire Le Prince de Machiavel, ce fameux livre justement sur le cynisme au pouvoir et en tout cas comment gouverner les hommes avec les turpitudes et la mauvaise nature humaine. Mais elle est une victime, elle n'a été... Son père l'a mariée déjà dès l'âge de 11 ans, il savait qui elle allait devoir épouser. Donc c'était
terrible. Pas une débauchée, Lucrèce Borgia,
Tout débauchée.
Qui lui fait cette réputation?
Eh bien, je pense que c'est son frère, évidemment, d'abord parce qu'il y a eu un épisode un peu marquant dans sa vie. Son premier mari a été donc assassiné parce qu'il n'intéressait plus la politique. On l'a marié en fonction de la politique, une fois avec le Sforza, le duc de Milan, celui-là, hop, on l'assassine. Et puis ensuite, on lui en fait épouser un autre, à Alphonse d'Aragon, qui est l'héritier de Naples. Et entre-temps, elle est dans un couvent pour résister à son père.
Puisque elle est fille de pape, on peut tomber aussi amoureuse au couvent. Pendant la Renaissance,
bien sûr,
c'est
le seul endroit d'ailleurs où tranquillement. Et ben parce qu'il y avait un officier attaché au service de la chambre du pape. C'était un Espagnol de 22 ans qui avait la fesse ferme et la moustache un peu conquérante.
Ah, c'est précis,
Pedro Caldés, surnommé Perotto. Et ben Perotto, elle lui fait confiance. Certes, il est l'homme de son père, mais il se prend d'affection pour elle. Et puis voilà, Tipa qui font donc ils couchent ensemble. Oui. Et elle est enceinte. Mais comment faire? Parce que le Perotto, comme il a touché la sœur de César Borgia, il se fait assassiner. Et donc voilà, elle est fille-mère. Et donc cet enfant elle va le garder. Faute de père déclaré, le nouveau-né est déclaré l'infant romain. Et ses détracteurs, des Borgia, s'appuieront sur cette naissance anonyme pour dire d'une part qu'elle pratiquait l'inceste et d'autre part que c'était une débauchée. Mais le vrai débauché, c'est César, et l'autre débauché, pardon de le dire, avec tout le respect que j'ai pour la papauté, c'est Alexandre VI, le pape Borgia, qui, comme vous le savez, pour le troisième et dernier mariage de la...
Ça, on le racontera dans un instant.
Ah, ça, c'est un très
la
bon
fête,
sujet.
La fête qui va organiser. Ça et... pourrait s'appeler une orgie.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
Avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Vous écoutez RTL. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
La Renaissance est dans l'œil, dans l'oreille de notre curiosité et en couverture du livre de Stéphane Bern. On parlait des Borgia Stéphane et de Lucrèce Borgia, fille de pape, souvent présentée comme une débauchée, une manipulatrice, une obsédée sexuelle. En fait, elle a plutôt été la victime de Absolument. Son père et de ses frères. Comment Alexandre VI, donc le pape, son père, fête le dernier mariage de Lucrèce ?
Alors, encore une fois, on essaye de marier Lucrèce pour que ça serve au mieux les intérêts politiques du pape qui régnait temporellement sur Rome. C'était un état. Eh bien, Alexandre VI et son fils aîné César Borgia organisent un nouveau mariage. Et on lui choisit le futur duc de Ferrare, qui s'appelle Alphonse Ier. Et alors, bon, elle se dit, c'est une autre façon d'échapper à mon père, j'en peux plus, maintenant je veux quitter Rome, je pars à Ferrare. Donc le mariage se passe bien. Le pape est de très bonne humeur, parce que vraiment là, il a réussi un joli coup politique et donc il va fêter ça. Et au banquet, il fait venir évidemment quelques invités et 50 prostituées. Voilà, donc 50 prostituées qui vont égayer la vie un peu terne des
Oui, c'est une bonne idée pour un mariage, bien sûr.
Vous imaginez, ouais, pour votre bien. Mariage, ouais, votre père bien. Invite des prostituées. Non, c'est terrifiant,
bon
mais c'est une autre époque. Je veux bien que ce soit la Renaissance, mais c'est vrai qu'il y a un côté vraiment débauché chez Alexandre VI et César Borgia. Mais franchement, j'aimerais qu'on exonère quand même Lucrèce Borgia de tous les crimes dont on l'accable, parce que franchement, je pense qu'elle était victime de son père, de sa sœur, et peut-être d'une époque qui était en train de changer et où les femmes finalement commençaient à avoir plus de pouvoir qu'on en avait auparavant.
C'était que
merci beaucoup, heureusement, Stéphane. Heureusement. La Renaissance, secret d'histoire, c'est publié chez Albin Michel. À très vite.
Merci
dans
Stéphane.
La curiosité,
merci
ce sera un bonheur. Et sur RTL, dès demain.
Vous écoutez RTL.